réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour, bonjour. Comment ça va?
Oh, ça va bien. J'ai bien dormi, j'ai récupéré. Ce matin, je me suis levé normalement par rapport à l'heure d'hiver, l'heure d'été. Là.
D'accord.
Ça faisait 3 jours, je me levais à 7h du mat.
Ça ouais, c'est vous avez repris pas.
Là, j'ai repris, je me suis levé à 8h30. Donc là, le jeune homme, il vient pour m'aider à prendre la douche, parce que je ne peux pas la prendre tout seul.
C'est ça.
Et à me crémer le corps, parce que tout le haut du corps brûlé, c'est-à-dire les deux bras, le dos et le torse. Donc il me met de la crème, d'Exérine, qui permet à la cicatrisation de...
Qui accélère le processus,
voilà.
Qui est surtout...
Et là, sur moi, ce que vous voyez, c'est un compressif, c'est un vêtement spécial pour que les plaies et les cicatrices, hein, je ne dis pas de bêtises, ne soient pas, gonflent pas. Donc c'est hyper compressif,
ça, en fait,
comme vous voyez.
Ça permet de la revascularisation.
Voilà, les termes techniques que moi je connais pas. Alors nous, on va vous laisser parce qu'on va se cacher sous la douche. Parce que c'est pas un spectacle de voir un grand brûlé. Pas même pour n'importe qui qui n'est pas du milieu. Tant que j'étais à Marseille, à l'hôpital de Conception, au grand brûlé, là, je me suis jamais vu. Et alors j'étais inquiet parce que j'avais toujours... des bandages autour de la tête. Donc vous voyez pas mes oreilles. Enfin, je pouvais pas bouger les bras, donc je pouvais pas toucher mes oreilles. Mais on refaisait le bandage tous les matins autour de la tête et je pensais avoir perdu mes oreilles, etc. Enfin bon, je savais pas exactement. Et c'est simplement au bout d'un mois et demi, voilà, que j'ai vu mon corps entier dans la glace. J'ai pas trop de mal à voir mon corps, sauf que j'ai... Mon problème, c'est que moi, j'adore me baigner, j'adore la mer, pouvoir me sentir libre dans l'eau. Il m'est interdit de sortir au soleil, totalement interdit de sortir au soleil, totalement interdit de me baigner, où j'attends de 2018 déjà. Je sais que tant que je suis pas en 2018, je peux juste regarder la mer. Alors donc, je m'appelle Patrice, je suis né en 54, donc là j'arrive à l'âge de la retraite, hein. J'ai 62 ans depuis le 25 septembre, j'ai passé 30 ans de ma vie en tant qu'intermittent, du point de vue technique, photographe, machiniste, j'ai fait beaucoup de métiers dans l'intermittence du spectacle, et disons que j'y pensais pas moi à la retraite, c'est sur ma boîte mail que c'est tombé. Comme quoi j'allais avoir 62 ans et qu'il fallait que je m'enregistre en tant que retraité. Ils m'ont envoyé tout le déroulement de ma vie, point de vue professionnel. Et avec ce dossier-là, il fallait que je me présente à la CARSAT, c'est-à-dire à la Caisse de retraite du sud-est de la France, dont les bureaux se trouvent à Marseille, pas très loin de chez moi, en tram. Je suis allé à ces bureaux la première fois en janvier 2016. J'ai un très bon accueil, où il y avait 5 ou 6 employés qui s'occupaient de tous les retraités qui arrivaient quand on faisait la queue, mais c'était très sympathique. On passait par l'ordinateur, on envoyait notre numéro de sécu, le dossier sortait, voilà, et ils nous demandaient ce qui manquait comme dossier, quoi. Voilà, bon, ça, c'est l'administration française, on a l'habitude, il manque toujours quelque chose. Encore plus quand on est intermittent, j'ai peut-être eu... plus de 100 employeurs dans ma vie, 100 ou 120, je ne sais plus. Donc c'est sûr qu'il manquait toujours des... Il manquait, hein. Voilà. Donc, suite à ça, au premier rendez-vous qui était courant janvier, je me souviens que j'ai cherché mes documents, je les ai rapportés en février, début février. Alors là, un accueil personnel, un bureau tout seul, hop. La personne qui s'occupait de moi m'a dit « pas de problème, tout est réglé ». Tout sera en marche à partir donc de ma date anniversaire où j'ai atteint mes 62 ans. Donc il n'y avait pas de problème. Et puis au mois de mars, je reçois un mail et un courrier me disant qu'il manquait un document qui devait venir de ma caisse de retraite spécifique des intermittents du spectacle. Bon. Donc j'envoie un mail et j'écris à cette caisse de retraite qui elle-même me dit « Ah mais non, nous on n'a pas ce document ». Ce document-là, c'est forcément la CARSAT qui l'a. Donc je retourne sans rendez-vous, comme ça, je reparle avec quelqu'un. Et on me dit, ah non, non, mais c'est, vous avez mal compris, c'est bien l'organisme qui s'occupe spécifiquement des intermittents qui a ce document. Et sachez qu'à la date, la veille du 1er mai, malheureusement, votre dossier sera considéré comme nul et non avenu. Il faudra tout recommencer, toutes les démarches. Mais je ne m'inquiétais pas, j'ai dit, bon, c'est comme d'habitude. J'ai encore le temps, ça va, pour d'ici fin avril, pour trouver ce document, quoi. Et je refais les demandes et toujours les mêmes réponses. Je retourne à la CASAD, on va dire, par exemple, c'était début mars. Et là, suite à des travaux qu'ils faisaient, la CARSAT, on était accueillis dans une sorte de pièce qui faisait, je sais pas moi, 20 mètres carrés. Et on faisait la queue dehors. Donc tous les retraités ou futurs retraités, on faisait la queue dehors. Et là, malheureusement, on n'avait plus d'accès direct avec une personne compétente. Il y avait simplement deux personnes qui nous recevaient, qui tapaient sur l'ordinateur, et la réponse était la réponse de l'ordinateur. Et j'ai fait trois visites le courant mars, avril pareil, et je perdais au fur et à mesure de ma confiance, la confiance en cet organisme, parce que personne ne pouvait nous répondre. Et donc vers le, je crois que c'était vers mi-avril, un jour je me suis un peu énervé. Parce qu'à une des deux personnes, j'ai dit, mais écoutez, qu'est-ce qui s'occupe de mon dossier? Et alors, elle tape sur l'ordinateur, pareil, elle me répond, ah, mais vous inquiétez pas, c'est Madame X. Ah, mais oui, mais là, elle est partie en vacances pendant 3 semaines. Elle est au sport d'hiver. Et elle me répond comme ça, avec un grand sourire. Ben, je dis, oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah, rien, mais apparemment, vous inquiétez pas. Quand elle reviendra dans 3 semaines, j'ai dit, mais écoutez, non, là, c'est pas possible. Dans 3 semaines, la date fatidique du mois de mai sera passée. Et là, mon dossier, il faudra que je le refasse entièrement. Donc, c'est pas possible. Donc, je me suis énervé. Bon, il y avait des vigiles qui ont commencé à bouger derrière moi. J'ai attendu pendant un quart d'heure. Il y a une troisième personne qui est venue en me disant, bah oui, on est vraiment désolé. Madame X est en vacances. Mais on va faire en sorte que vos dossiers accélèrent. Mais il nous manque toujours ce document qui... attestait comme quoi j'étais intermittent du spectacle depuis 30 ans. Et sans ce document, votre dossier n'est pas valide. Donc j'étais en colère et angoissé à la fois, parce que je voyais qu'il n'y avait aucune issue. Puis angoissé parce qu'il y avait la date butoir de fin avril, et qu'à fin avril, il fallait que je refasse un dossier total, donc repartir à zéro, donc ça faisait encore 3 mois de démarche. Que fin avril, je savais que je ne pouvais même plus vivre avec mes 400 euros par mois d'handicapés. J'avais plus ce que me versait, ça devait être 300 euros de Pôle emploi par mois, le minimum. Je n'avais plus le droit non plus. Je me retrouvais donc sans un centime à partir du 1er mai. Voilà. J'ai pensé à faire une action violente, genre, je sais pas, moi, alors là, c'était le grand délire. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je prenne un employé en otage pour pouvoir avoir un responsable qui puisse appuyer sur la bonne touche de l'ordinateur pour dire « Ok, votre dossier est libre. » Et donc, j'ai vu aucune solution. Mais cette violence, comme je ne suis pas violent au fond de moi-même, je me la suis retournée à moi-même. J'ai dit « Bon, ben dans ce cas-là, je vais me suicider chez eux. » Et donc, j'ai choisi l'immolation, c'est-à-dire le feu. Pour moi, l'immolation, c'était les moines bouddhistes qui s'immolaient parce que la Chine communiste, enfin ce qu'on appelle communiste, c'est toujours communiste aujourd'hui d'ailleurs, les empêchait de vivre. Et donc, bah, pour les moines tibétains, s'immolaient plutôt que de voir passer sous le joug chinois. Et donc, pour moi, c'était ça, c'était l'immolation, c'était un trait par rapport au bouddhisme. Je suis quelqu'un de radical. Ça, c'est certain. Et je savais très bien que si je me taisais, comme tous les gens qui se taisaient, à chaque fois que j'y allais, on faisait la queue, on attendait une heure et demie dehors en plein vent, on faisait la queue, et je vous assure que toutes les fois, j'y suis allé, plus d'une dizaine de fois, je n'ai jamais vu quelqu'un ressortir avec le sourire, ou sortir simplement en disant, ouf, mon dossier est fait, c'est bon, je vais pouvoir rentrer chez moi, content, quoi. Voilà, heureux, normal, quoi. Non. Quand je me suis levé, par exemple, le matin du 27 avril, il est vrai que j'avais déjà mûri, si j'ose dire, mon immolation. Oui, je savais très bien que dans l'après-midi, j'allais m'immoler. Bon, je suis encore allé le matin, dernier espoir, reposer les mêmes questions. Et toujours ces réponses aussi abruptes, stupides. J'ai envoyé un mail à la caisse de retraite en leur disant, bon, bah, vous avez réussi à me rayer la liste des citoyens. Moi, je me raye de la liste des êtres vivants. J'ai dû mettre même bravo, merci de la CARSAT, quoi. Le midi. Et c'est pour ça que je me suis retourné l'après-midi, je me suis immolé l'après-midi. Une fois que j'ai allumé le feu, il y a eu ce bruit, là, ouf. Et ensuite, je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je me suis réveillé à l'hôpital, mais c'était 10 jours après. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas exactement quand, etc. Mais bon, ils m'ont gardé 10 jours dans le coma, car ils ne savaient pas exactement comment mon corps allait réagir. Si j'ai bien compris, mon corps et l'esprit, quoi, bien sûr. Et donc, je suis resté 10 jours dans le coma et je me suis réveillé. Bah, je me rendais compte que j'étais comme une momie, entièrement sous bandage, même la tête, les oreilles. Il y avait juste les yeux, le nez et la bouche qui apparaissaient. Et tous les 2 ou 3 jours, d'après mes souvenirs, hein, on m'enlevait les bandages avec des cutters, ils enlevaient les bandages. Et ils me recrémaient entièrement le corps à la bétadine et à d'autres produits, quoi. Tout ça toujours sous morphine. Et donc maintenant, je me rends compte que le seul rapport que j'ai avec le feu, c'est quand chaque fois que j'allume une cigarette, quoi. Et parfois j'y pense, je me dis, bah tiens, c'est ça qui m'a immolé, qui m'a rendu dans l'état où je suis actuellement. Et parfois, quand je regarde des films violents à la télé ou des films que j'enregistre, on va dire des polars bas de gamme américains, on voit comme ça des voitures qui crament et tout. Il est vrai que je ne regarde pas ce genre de. Ces images me font mal. Les images de feu comme ça me font mal. Voilà. J'ai pas de remords du tout dans ce que j'ai fait. J'accepte totalement mon geste. Même aujourd'hui à 100%, sauf que bien sûr, je ne referai pas ce geste. Je conseille à personne de faire ça. Le suicide est quelque chose de très égoïste, donc j'ai agi en tant qu'égoïste. Mais c'est la seule solution que je trouvais. Et alors là, c'est sûr que la CARSAT a réagi d'une manière positive, c'est-à-dire que le courrier est arrivé 2 jours après chez moi, comme quoi mon dossier était bien, il n'y avait pas de problème. La caisse de retraite d'audience, donc c'est celle qui est spécialisée pour les intervenants de spectacle, envoyait aussi un courrier en disant, mais il n'y a aucun problème, votre dossier est réglé. Voilà. Et ça, c'est les deux courriers qu'a découvert ma fille quand elle est venue 3 jours après, quand les flics l'ont prévenue qu'elle est venue chez moi 3 jours après. Elle a trouvé ses courriers dans la boîte aux lettres.